des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale, vous l'entendez peut-être, ce léger brouhaha, cet écho magnifique. Nous sommes en direct de la Maison de la Radio pour Radio France, Faites le Livre, qui bat son plein jusqu'à demain. Émission spéciale, doublement spéciale, puisque nous passons cette heure avec la marraine de cette édition, la talentueuse, la drôle, la vive, la chapeautée, la romancière et spécialiste en philologie romane, Amélie Nothomb. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Christophe.
Alors comment ça se passe ce salon Radio France Faites le Livre?
Écoutez, ça se passe magnifiquement. En plus, cela ne pouvait pas mieux tomber. J'ai justement une panne de chauffage chez moi. Donc, je passe mon week-end à Radio France qui est très bien chauffé.
Oui, il fait très chaud. Hein.
Oui, mais c'est voilà. Vrai, j'adore.
Avec le chapeau, ça va pas
ça,
trop...
ça se passe très bien.
Très, très bien. Qu'est-ce que c'est marrainer, finalement, un salon? Ça consiste en quoi exactement?
Alors, je ne sais pas très bien. Vous savez que je viens de Belgique. En Belgique, une marraine est une personne qui offre de la tarte au riz. J'ai pensé à venir avec de la tarte au riz à Radio France, mais c'est un tel étouffe chrétien que je suis pas sûre que je serais très bien accueillie.
Une tarte au riz, c'est donc à la place des pommes, c'est du riz.
C'est du riz, c'est très lourd, ouais. C'est voilà, une marraine est une personne qui offre de la tarte au riz.
Donc là, comme vous êtes venue sans tarte au riz, du coup, vous avez offert quoi? Vous faites quoi?
J'essaie de trouver une indemnité compensatoire, donc je me fais offrir du champagne et j'écoute les questions et je réponds dans la mesure de mes moyens.
Très bien. Je me souviens d'une phrase d'Hygiène de l'Assassin qui était terrible, Amélie Nothomb. Au fond, les gens ne lisent pas, ou s'ils lisent, ils ne comprennent pas, ou s'ils comprennent, ils oublient. Est-ce que c'est la phrase qui résume la situation, selon vous?
Écoutez, cette phrase est finalement pas tellement exacte. Elle est exacte seulement pour une certaine proportion de lecteurs. Mais je suis très contente de m'être à ce point trompée en affirmant cette phrase dans Hygiène de l'Assassin, parce qu'il a fallu que je me trompe à ce point pour avoir tous les jours depuis 26 ans la preuve du contraire. Certaines erreurs sont très fécondes, c'est une erreur féconde.
Alors, est-ce que vous sentez une mission, justement? On dit aujourd'hui un rôle de l'écrivain. Alors, je disais la marraine. Bon, la marraine qui apporte la tarte au riz. Donc, malheureusement, je ne goûterai pas aujourd'hui de tarte au riz. Mais est-ce que pour vous, justement, dans cette époque, quand vous dites où s'ils comprennent, ils oublient, est-ce que pour vous, l'écrivain a un rôle, une mission d'agent secret, peut-être? Parlons pas de mission messianique, forcément.
La seule mission que je me sois trouvée, et encore, je l'ai trouvée par accident, parce que je n'aurais pas pu la préméditer, c'est... Un écrivain peut jouer ce rôle absolument colossal de donner le goût de la lecture. C'est probablement ce que mes lecteurs m'ont le plus renvoyé, des lecteurs jeunes ou pas forcément jeunes qui m'ont dit « Avant vous, je lisais pas, j'ai lu votre livre, je ne sais même pas si j'ai aimé votre livre, mais je sais que depuis que j'ai lu votre livre, je lis. » Et je lis pas seulement Amélie Nothomb, je lis. Je me dis que si je peux, en tant qu'écrivain, apporter les gens, amener les gens à la lecture, voyant le rôle que la lecture a joué dans ma vie, je trouve ça déjà gigantesque.
Le pouvoir des livres, de la lecture, vous le connaissez parfaitement. Hein, dans Antéchrista, il y avait cette phrase « La lecture n'est pas un plaisir de substitution ». Il vous semble menacé, ce plaisir, difficile à transmettre?
Je crains que oui. J'ai l'impression qu'il y a en ce moment un problème de transmission qui commence dans les collèges et les lycées. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de tous les professeurs. Il y a des professeurs qui s'y prennent très bien. Mais manifestement, il y a des professeurs qui ne parviennent pas à expliquer à leurs élèves que lire, c'est avant toute chose un plaisir. Avant d'être un devoir, avant d'être n'importe quoi, c'est un plaisir. Et de voir que tant de jeunes qui vont devenir les adultes de demain n'ont pas compris cette chose de base, à savoir que c'est... Vous rendez compte, se priver d'un tel plaisir?
C'est vrai.
Je parle même pas des lectures profondes. Il y a des lectures qui ne sont pas profondes. Mais se priver de ce plaisir-là, vivre avec un plaisir en moins, ça me paraît épouvantable.
Écrivain, assassin, deux aspects d'un même métier, deux conjugaisons d'un même verbe. Quel verbe? Le verbe le plus rare et le plus difficile, le verbe aimer. C'est dans Hygiène de l'assassin. Dans Hygiène de l'assassin, il y a cette figure d'écrivain terrible, hein, prétexta tâche, aussi repoussant que fascinant, qu'une jeune femme va interroger. On comprend en vous lisant que cet écrivain est un être des marges et un personnage. Vous avez, d'ailleurs, je profite pour vous lire, vous êtes extrêmement élégante, pas seulement aujourd'hui, mais en tout cas aujourd'hui vous l'êtes, c'est absolument magnifique. Vous avez mis en avant ce personnage d'écrivain Amélie Nothomb jusque sur la couverture de vos livres. Très belle photo de Mondino pour les prénoms épicènes avec ce corbeau sur votre épaule droite. Est-ce que l'écrivain doit être nécessairement associé à ce qui n'est pas normal ou à ce qui est sombre, à ce qui est dans l'ombre, pour parler comme Tanizaki ?
Non, pas forcément. Nous connaissons tous des écrivains charmants physiquement, pas du tout comme moi. Donc, il y a moyen d'avoir un physique tout à fait bien et d'être écrivain. Bon, mon cas est particulier. En l'occurrence, j'ai toujours eu un profond problème avec mon physique. C'est inanalysable, c'est comme ça. Je ne me supporte pas physiquement. Bon, tout allait très bien, personne ne me connaissait, j'étais dans l'ombre. Et puis, voilà que je suis devenue écrivain, ça a marché, j'ai eu du succès. Mon éditeur m'a dit, tu sais, il suffit pas d'écrire des livres, faut aussi apparaître, il faut que tu aies un corps, il faut que tu trouves quelque chose. C'est terrible de devoir tout à coup se trouver un corps quand jusqu'à présent on s'était résolu à l'idée de ne pas en avoir. Moi, j'ai inventé ça. Je suis désolée, j'ai les goûts que j'ai. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour exister. Ça m'embête un peu quand j'entends des gens répéter l'espèce de lieu commun à mon sujet. Ah, Amélie Nothomb, elle s'est créée un personnage. Mais non, je ne me suis pas créée un personnage. Il a fallu que j'apparaisse. Il a fallu que je trouve un corps. On est tous logés à la même enseigne. Pour vivre, il faut se trouver un corps. Je suis désolée, j'ai trouvé celui-là. Il faudra bien vous en contenter.
Quand vous dites j'ai inventé ça, ça, c'est quoi alors ça?
Ben c'est l'ensemble, voilà. c'est la carcasse et les habits qui vont avec. Très souvent, quand on est embêté physiquement, quand on a des problèmes, quand on a ce qu'on appelle des complexes physiques, eh bien, on invente un costume parce qu'on se dit que le costume va prendre le pas sur le physique. Ben, j'ai fait comme tout le monde.
Et le noir?
À la maison, c'est toujours moi qui ai dû faire la lessive. Avoir une seule marque de lessive pour qu'on peut mettre tout dans la lessive, dans la machine, en sachant que ça ne va pas déteindre surtout. Chez moi, tout est noir. Les draps sont noirs, les serviettes de bain sont noires, les vêtements sont noirs. Donc, ça simplifie les choses.
Je pensais, moi, au noir de la soutane d'un abbé que vous avez bien connu, en tout cas littérairement, l'abbé Donisson, dans Sous le soleil de Satan, puisque vous avez fait une thèse sur Bernanos. Et c'est à ça que je pensais quand je parlais du noir. Pourquoi le choix de Bernanos? Est-ce que c'est le combat du bien contre le mal? Est-ce que c'est l'histoire du salut de l'âme? Est-ce que c'est le personnage formidable de Mouchette? Qu'est-ce qui vous intéressait chez Bernanos?
J'avais eu une intuition au sujet de Bernanos. J'ai prétendu la vérifier. Bon, ma grande passion dans le langage, et particulièrement dans cet emploi singulier du langage qui s'appelle la littérature, c'est le verbe. Le verbe, c'est l'élément fort du langage et singulièrement de la littérature. Bon, ma petite entrée, ça a été le régime transitif ou intransitif des verbes. Un verbe peut conduire à quelque chose ou peut ne conduire à rien. C'est très intéressant. Ça s'appelle la transitivité. Ayant beaucoup lu Bernanos, j'ai eu l'intuition qu'il avait un usage de la transitivité et partant de l'intransitivité très fort. C'était fort s'agissant de celui qui est considéré comme le plus emblématique des écrivains catholiques. Bah, la religion catholique, elle n'est pas censée être intransitive, elle est censée conduire au bien, elle est censée conduire à Dieu. Il n'y a rien de moins intransitif que ça. Et pourtant, Bernanos me paraissait foncièrement intransitif. Ça m'a paru terriblement intéressant. J'ai voulu étudier cette question. Bien évidemment, c'est en rapport avec ma vie. J'appartiens à la famille la plus catholique de Belgique. On peut ne pas trouver ça intéressant du tout. C'est vrai, c'est tout à fait mineur. Mais moi, j'étais dans une situation très particulière puisque j'appartenais à cette famille censée être très catholique. En même temps, je ne l'étais pas parce que les circonstances de ma vie avaient fait que je ne l'étais pas. Et en même temps, je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis demandé comment faire pour m'inscrire dans cette tradition-là tout en étant parfaitement intransitive.
Et intransigeante. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors sur cette transitivité de Bernanos? Finalement, vous dites j'étais dans la famille la plus catholique de Belgique et je ne l'étais pas, moi, finalement, à cause des événements de ma vie. Dieu n'est jamais revenu.
J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fort que ça. En vérité, la conclusion, je n'aurais pas pu l'imaginer si je n'avais pas fait cette thèse. J'ai trouvé que Dieu, c'était précisément l'intransitivité. Que dès qu'on dit qu'on croit en quelque chose, c'est nul. Tandis que si on dit « je crois », c'est très fort. Mais c'est ça Dieu, en fait.
Vous avez parlé de livres qui vous avaient empoisonné, c'était votre terme, comme Belle du Seigneur, par exemple.
Par exemple, il y a des livres beaucoup plus empoisonnants que Belle du Seigneur. Ouais. Mais bon, c'est vrai que Belle du Seigneur est un cas particulier, puisqu'il est question de ce grand pontosane qui est l'amour fou. Ouais. Bon, alors, quand on lit Belle du Seigneur, on se demande si l'auteur essaye de nous convaincre qu'il faut absolument essayer le truc ou qu'il faut absolument ne jamais l'essayer. tellement il y a des pages magnifiques qui donnent à penser que l'amour, c'est vraiment le trip le plus beau qu'on puisse vivre, et tellement il y a de pages pour nous convaincre que l'amour est juste une expérience répugnante, ridicule, avilissante. Bon, il ne tranche pas, et je crains que toute personne qui a essayé l'amour fou dans sa vie ait des jours de doute aussi en se disant « est-ce que vraiment j'ai essayé quelque chose qui me convenait ?»
En même temps, la personne qui aime est toujours la plus forte, hein, dites-vous, dans les prénoms épicènes.
Oui, mais il faut beaucoup de courage pour penser ça. Si on ne comprend pas que cette phrase n'a aucun sens, si on ne choisit pas d'être aussi la personne la plus courageuse, alors ça n'a juste pas de sens.
Les jeunes filles de Monterland, livre phare de votre adolescence.
Alors, voilà un livre qui lui a beaucoup plus compté, parce que je l'ai lu beaucoup plus tôt que Belle du Seigneur. J'ai commencé à lire Les jeunes filles de Monterland quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire précisément à l'âge où j'étais en train de devenir une jeune fille. Et
qui est plus lu aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est intéressant d'en parler.
C'est un livre extraordinaire, c'est un livre épouvantable. Qui nous enseigne, qui nous dit qu'il n'y a rien de pire qu'une jeune fille. Que la féminité est une chose horrible.
Enfin, c'est dit par un homme qui est un affreux misogyne.
Qui est un affreux misogyne, mais en même temps, quand on lit les jeunes filles, on est forcé de dire tout ce qu'il décrit existe. Cette féminité dont il parle existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit, et peut-être que Monterland, qui de fait n'aimait pas la féminité, peut-être qu'il en parlait quand même un petit peu en connaissance de cause.
Il vous a empoisonné aussi, alors ce...
Il m'a empoisonné, mais en même temps, il m'a considérablement apporté, parce que lisant et relisant continuellement Les jeunes filles pendant mon adolescence, je me disais, comment faire pour ne jamais devenir cette personne? Comment faire pour ne jamais devenir cette jeune fille qu'il décrit? Cet être qui s'offre en une espèce de fragilité pour être immolé, mais comment faire pour ne pas devenir cette personne parfaitement répugnante? Je crois avoir trouvé un moyen.
Alors?
Eh bien, il ne faut pas l'être.
Il suffit de se le dire, en fait.
Il y a là une jeune fille qui a un pull noir avec des motifs blancs dessus.
C'est vrai.
Qui est le sosie de Marguerite Yourcenar au même âge. Et je pense que Marguerite Yourcenar a été une réponse extraordinaire à cette question. Il y a moyen d'être une femme sans être le moins du monde une petite créature fragile qui s'offre à l'immolation. Je pense que Yourcenar est l'auteur qui m'a sauvée de Monterland.
Voilà, j'espère que vous êtes contente du compliment.
C'est un très grand compliment dans ma bouche de ressembler à Marguerite Yourcenar.
Voilà, et vous irez lire aussi Mémoire d'Adrien très vite, juste après cette émission, hein, j'espère. On conseille hein, Mémoire d'Adrien.
Oh oui, absolument.
Quand même. L'œuvre noire aussi. Vous venez de le dire, il y a des livres qui sauvent, il y a des livres qui empoisonnent, des livres qui sauvent. Vous parlez de temps en temps, d'ailleurs assez rarement, parce que c'est vrai qu'on vous interroge toujours sur votre œuvre, mais ce qui vous a nourri, au fond, on n'en parle pas assez. L'être un jeune poète de Rilke, ça, c'est un livre qui revient souvent,
mais
en
oui.
fait. Dans...
C'est un livre sublime et que tout le monde doit lire, même si on n'a aucun projet littéraire, même si on n'a pas un instant l'intention de devenir écrivain. L'être un jeune poète, c'est vraiment le livre qui peut le plus changer votre vie, parce que c'est un livre qui pose les bonnes questions de façon juste et honnête, et qui apporte des suggestions de réponses extrêmement intéressantes.
Mais alors, qu'est-ce qu'il offre justement comme réponse, si on essaie d'être plus précis? Pourquoi ce livre-là revient et est si important pour vous?
Alors, ce livre commence par la question la plus banale qu'un écrivain puisse recevoir, à savoir, maître, je vous ai apporté mes poèmes, est-ce que j'ai du talent? Qu'est-ce que ça vaut? Situation que je vis tous les jours.
On vous envoie beaucoup de textes.
Bien sûr. Et Rilke fait cette réponse absolument sublime et inédite. Il dit, jeune homme, si vous voulez, je peux vous dire ce que je pense de vos poèmes, simplement je pense que mon opinion n'a aucun intérêt. La seule question que vous devez vous poser, ce n'est pas de savoir si vous avez du talent, ce n'est pas de savoir si vous traverserez les siècles. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que oui ou non, vous pouvez continuer à vivre sans écrire? Est-ce que oui ou non, écrire est pour vous une question de vie ou de mort? Si écrire est pour vous une question de vie ou de mort, alors peu importe que vous ayez du talent. Le talent, il viendra forcément, puisque c'est tellement nécessaire. Et cette question est valable que l'on veuille être écrivain, que l'on veuille être journaliste, que l'on veuille être pâtissier, tout le monde doit se poser cette question en ces termes-là.
Et Don Quichotte comme héros, alors avec Tintin, alors Tintin, je comprends bien, ça, oui. ça là, le nationalisme
on
belge,
n'est pas belge
parle,
pour rien,
voilà.
Oui, bien sûr.
Mais Don Quichotte, voilà.
Écoutez, une chose.
C'est un texte magnifique.
C'est un texte sublime. Alors est-ce que c'est dû au fait que la Belgique, personne ne le sait, mais nous avons été une colonie espagnole pendant très longtemps. La France n'a jamais été une colonie espagnole. Nous l'avons été et nous en avons
hélas, beaucoup. Hélas.
Et nous en avons beaucoup souffert. Mais il reste quelque chose de ce substrat espagnol chez nous. Et c'est pas pour rien que tant d'auteurs belges ont chanté Don Quichotte. Je crois que on est fasciné par ce personnage parfaitement grotesque. Et Dieu sait si on s'y connaît en grotesque en Belgique. Nous sommes grotesques. Mm. Être belge, c'est quelque part être grotesque.
Oui, mais bellement grotesque. Quand on voit James Ensor, par
bien
exemple,
sûr.
C'est ça. Phrases,
bien sûr, être belge, c'est élever le grotesque au niveau des beaux-arts, oui. Bien évidemment. Oui. Et donc, Don Quichotte nous parle, parce que Don Quichotte est ce personnage qui ose, au dernier degré, être grotesque au nom d'une cause qui peut très bien être vue comme ridicule, mais que lui a choisi de trouver sublime, et finalement, il a raison. Il a d'autant plus raison qu'on ne va pas le comprendre.
C'est une belle, aussi, c'est un personnage qui est une belle image aussi de l'écrivain. Aussi,
bien sûr, combattre les moulins à vent, exactement. Mais il a raison.
Est-ce que vous sauriez expliquer, justement, là, vous avez parlé de quelques-uns des livres qui vous ont soit empoisonné, soit sauvé. Est-ce que vous sauriez dire comment s'opère, justement, ce miracle ou cette alchimie? Pourquoi est-ce qu'un livre nous parle autant? Est-ce que c'est juste un message? Est-ce que c'est une
non.
voix? Est-ce que c'est un ton?
C'est bien plus ouais. un ton qu'autre chose. J'ai vécu une expérience absolument stupéfiante il y a une dizaine d'années. Je venais de lire un roman contemporain dont on parlait beaucoup à l'époque. Et résultat, j'avais une indigestion. Mais quand je dis que j'avais une indigestion, je ne vous le dirai pas. C'est pas une métaphore. Je veux dire, j'étais dans la situation d'une personne qui a une indigestion, c'est-à-dire que je me disais, je vais me mettre au lit avec une bouillotte et ne plus manger pendant 2 jours. Je me sens affreusement mal. Ça ne va pas du tout. C'est rare que je dise ça parce que je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'estomac. Normalement, je peux tout supporter. Mais là, j'avais juste une indigestion. Et là, j'ai eu un instinct extraordinaire. Je ne comprends toujours pas comment j'ai eu la bonne intuition. Je me suis dit, non, il faut que tu lises quelque chose de très différent de ce que tu viens de lire. Peu importe le contenu, il faut que tu lises quelque chose d'extrêmement bien écrit. Et je suis allée prendre Les faux monnayeurs de Gide. J'ai lu les 50 premières pages. L'indigestion était totalement guérie. Je ne suis pas sûre que Gide aurait été content si on lui avait dit que l'un de ses livres, et pas le plus moral, avait le pouvoir de guérir totalement d'une indigestion. Mais pourtant, Gide, quand on voit... Ce que Gide raconte les trois quarts du temps, c'est juste horrible. Enfin, franchement.
Surtout celui-là.
Surtout celui-là. Ouais. Enfin, c'est affreux. Ce sont des choses qui me
choquent. Meurtre gratuit.
Le meurtre gratuit voilà. Et puis la pédophilie. Enfin, c'est des choses abominables. J'aime pas ça. Mais l'écriture est tellement parfaitement belle, tellement maîtrisée, tellement. C'est une musique tellement parfaite qu'elle a remis tous mes organes digestifs en parfaite condition.
C'est drôle parce qu'on retrouve ce que vous disiez et que l'écrivain aussi est un corps, on en parlera un peu
oui.
plus tout à l'heure, de remettre en ordre des organes. C'est vrai que c'est organique, toujours.
C'est toujours organique. Les plus grands écrivains sont ceux qui parlent à notre corps avant même qu'on soit conscient qu'ils disent quelque chose à notre âme.
Et vous savez pourquoi? Pourquoi cet agencement étrange de mots parle autant... justement au corps, parle autant, fait battre le cœur, remet un estomac en état.
Je ne sais pas, mais je l'ai expérimenté un très 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 grand nombre de fois. C'est pour ça aussi que quand des gens très bien intentionnés viennent me dire « Oh, moi je trouve que vous devriez écrire un livre sur telle grande cause », à chaque fois j'ai envie de leur dire « Mais vous n'avez pas compris, la littérature c'est pas ça ». Je ne dis pas que ces grandes causes n'existent pas, je ne dis pas qu'elles n'ont pas besoin d'être défendues, simplement quand la littérature défend une grande cause, c'est vraiment un accident. Parce que dans l'immense majorité des cas, la littérature, tout ce qu'elle prétend faire, c'est créer un son magique qui va vous envoûter et qui va faire de vous, enfin, qui va vous apporter un plaisir qui vous sauvera.
Là, vous mettez le doigt, si je puis dire, sur la relation auteur-lecteur. Umberto Eco, dans Lector in Fabula. Alors là, bon, c'est un autre conseil de lecture, mais un peu plus quand on étudie la littérature. Parlait d'un lecteur modèle. Il expliquait que tout texte, pour que ce texte fonctionne, c'était son mot, il faut qu'un texte fonctionne, postule un lecteur modèle. Et ce lecteur modèle, il arrive à combler les lacunes parce qu'un écrivain met des trous. Et ce lecteur modèle comble les lacunes, remplit les vides de façon satisfaisante et c'est là que ça fonctionne. Et c'est pas seulement une histoire de coopération entre l'auteur et le lecteur pour agir sur le texte, c'est que le texte influe aussi sur le lecteur et que l'auteur presque... par une stratégie perverse ou magnifique, prévoit les diverses réactions de son lecteur. Je cite Umberto Eco, « Prévoir son lecteur modèle ne signifie pas uniquement espérer qu'il existe, Cela signifie aussi agir sur le texte de façon à le construire, à construire ce lecteur. Un texte repose donc sur une compétence, mais de plus, il contribue à la produire.
C'est génial.
Voilà. Bah, c'est génial. Formidable, il nous
c'est
manque.
Génial.
Vous êtes d'accord avec cette idée?
Je suis tout à fait d'accord. Ouais. D'une façon, ce n'était pas tout à fait la même chose, mais Stephen King dit que écrire, c'est de la télépathie en temps différé. C'est tout à fait vrai. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Et tabler sur l'existence du lecteur idéal, eh bien, c'est un pari juste, parce que ce lecteur idéal existe. J'en parle d'autant plus volontiers que ce lecteur idéal, il est dans la salle au moment où je vous écris. Je ne voudrais évidemment pas de qui il s'agit.
Alors, vous n'allez pas me dire, et justement, je voudrais qu'on précise un petit peu sans dévoiler son identité. Vous en avez déjà parlé et vous avez expliqué, mais alors, vous êtes arrêté, vous n'avez pas été relancé là-dessus. Vous avez utilisé l'image d'Orphée,
oui.
Qui est obligé de se retourner, hein, comme dans le mythe. Et alors, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire, parce que effectivement, quand Orphée se retourne, il perd Eurydice. Ce lecteur idéal vous a fait, j'arrive plus à parler. Il me faudrait un peu de champagne comme vous,
oui, alors,
Amélie Nothomb.
Regardez, ma bienveillance n'a pas de limite.
Voilà. Ah non, mais attendez. Voilà.
Oh. Non, voilà. Pas dans un verre de café, non, malheureux.
Il n'y a plus de café, il n'y a plus de café.
Malheureux.
Alors, Amélie Nothomb, vous devriez essayer le champagne et le café.
Mais quelle horreur.
Non, mais Orphée, en se retournant, perd Eurydice. Ce lecteur idéal vous a fait vous retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé pour
non,
vous
Non, justement, je pense que...
C'est délicieux.
Le mythe d'Orphée... Oh, mon Dieu. l'interprétation possible du mythe d'Orphée dans ce cas précis, c'est que justement... Il faut trouver cette espèce de quadrature du cercle, de continuer à écrire, mais pas pour ce lecteur idéal, tout en sachant qu'il existe.
Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, vous vous retournez pourquoi?
Mais on ne se retourne pas justement. Alors moi j'ai réussi à ne pas me retourner. J'ai pas dit que c'était facile, mais il faut être conscient que ce lecteur idéal est précisément celui qui a accès à votre angle mort. C'est ça le mythe d'Orphée. C'est il est question de l'angle mort, ce que vous ne verrez jamais.
Ils vous ont écouté.
Oh, Fontaine. Attendez,
pour
bah,
vous,
du
c'est
coup
pour
je vous donne l'ancienne.
Ah bah, très bien, voilà. Voilà, on partage tout avec Amélie Nothomb.
Ce sera meilleur que mélanger au café là.
Non, parce que vous aviez expliqué que vous aviez dû vous retourner. Donc vous ne vous êtes pas retourné finalement. Ce lecteur idéal.
Mais j'ai réussi jusqu'à présent à continuer à écrire, pas en fonction du lecteur idéal.
Parce qu'il vous montre quoi, des failles, il vous
non,
montre
non,
des.
Non. Il me montre tout ce que je ne vois pas à cause de mon angle mort, et qui, bien évidemment, existe.
On va écouter un petit peu de musique, c'est votre premier choix musical, Amélie Nothomb. On va expliquer un peu, peut-être avant de l'écouter, Lateralus de Tool. Tool, c'est l'interprète, et Lateralus, c'est le nom de l'album,
oui,
et
Tool,
le nom
c'est
du
un,
morceau.
Alors, c'est un groupe métal américain. C'est mon groupe fétiche et j'ai toujours dit qu'à mon enterrement, la chanson qu'on écouterait, ce serait Lateralus de Tool. Donc là, on va anticiper cet événement merveilleux que sera mon enterrement en écoutant Lateralus de Tool. J'adore cette chanson, pas seulement parce qu'elle est sublime, mais parce que je sens qu'elle raconte l'histoire de ma vie.
De l'angle mort à la mort, en fait, carrément.
C'est tout à fait ça.
Thank you.
Lateralus du groupe Tool. C'est le premier choix musical d'Amélie Nothomb, qui est la marraine de la 7e édition de Radio France Fête le Livre. Nous sommes en direct, voilà, elle bat son plein jusqu'à demain. Amélie Nothomb aussi bat son plein dans le temps des écrivains. Lateralus de Tool, donc c'est votre groupe
C'est mon groupe fétiche, mais surtout pour cette chanson. Chanson qui, voilà, c'est à la fois, ça commence par une suite de Fibonacci, c'est parfaitement mathématique, puis peu à peu, ça ajoute des éléments. Ça raconte le commencement d'une vie. Un embryon qui commence à remarquer l'existence des couleurs, et ça se termine par une expérience psychédélique totale. Ouais. La vie, une vie réussie, en tout cas c'est celle que j'ambitionne de vivre, c'est une expérience psychédélique réussie.
Et vous voulez ça à votre mort alors? C'est ce que vous expliquiez avant qu'on l'écoute.
Vous avez vu comme je suis ambitieuse quand même.
Bah oui, non, mais en même temps.
Mais oui, mais
le jour de ça,
voilà,
pour réussir, le jour de sa mort.
C'est très positif, je pense que ça va faire un enterrement sublime. Mon enterrement sera très beau.
Est-ce que vous écrivez en musique ou avant d'écrire, comme
surtout
une sorte de
pas.
Mise en transe, puisque vous parliez de psychédélisme?
Surtout pas. Ouais. Il faut qu'il y ait un très grand temps d'assimilation entre l'écoute de la musique et l'éventuelle influence d'une musique sur ce que j'écris. Si j'écoute... Bon, alors évidemment, s'il s'agit de musique d'ascenseur, ça n'a aucune influence, c'est pas grave, je peux très bien écouter de la musique d'ascenseur au moment où j'écris. Mais une musique telle que celle-ci, qui est tellement forte, mais comment voulez-vous écrire en écoutant ça? Ce n'est pas possible, on est totalement monopolisé par ça.
Non, mais avant, peut-être pour se mettre
alors,
en train...
Alors, il faudrait déjà... connaissez mes horaires. Je commence à écrire tous les jours de ma vie à 4h du matin. Comment voulez-vous écouter de la musique avant ça? Les voisins ne sont pas d'accord.
Non, mais il y a des casques, regardez, j'en ai
un. Oui, mais vous savez, moi, je viens du Moyen-Âge, je ne possède pas tout cet appareillage. Donc, non, le temps d'assimilation de la musique est beaucoup plus long entre le temps d'audition et le temps d'écriture.
Oui, et puis le thé suffit. Hein, voilà.
Le thé est une excellente substance.
Alors, vous avez publié en cette rentrée, alors j'ai perdu le compte, hein, je crois que c'est le 90e en fait, je mets les noms publiés et les publiés ensemble.
C'est le 90e, je suis en train d'écrire le 95e, alors je vous livre un scoop. Quand même, je suis marraine, il faut quand même...
Ça sera notre tartorie.
Votre tartorie, c'est celle-ci. Mon éditeur vient d'accepter mon nouveau manuscrit et il s'agit du 93e.
Ah, très bien. Et publié, c'est le combien, les prénoms épicènes?
Publié, c'est le 26e ou 27e. Là, j'ai plus de mal.
On va dire 26,5.
D'accord.
Les prénoms épicènes, il est question dans ce livre de la vengeance ratée, qu'un homme finalement raté... attendez depuis 20 ans, c'est aussi une vengeance de femme. Il y a un côté presque Barbet d'Aurevilly, la vengeance d'une femme.
Oh, que j'aime ce que vous dites.
Bah voilà, je sais.
La vengeance d'une femme de Barbet d'Aurevilly, voilà une vengeance sublime. Et pour le coup, totalement réussie. Moi, je raconte plus ici une vengeance ratée face à une vengeance réussie. L'idée, c'était de faire s'affronter deux vengeances, deux procédés de vengeance, l'une extraordinairement préméditée et orchestrée, l'autre parfaitement spontanée. On ne vous dira pas laquelle des deux marche.
Non. Moi, la question que je voulais vous poser, bon, la vengeance d'une femme, c'est dans Les Diaboliques de Barbet d'Aurevilly, recueil.
Lisez Les Diaboliques de Barbet d'Aurevilly, c'est juste trop beau.
Voilà, et souvent d'ailleurs, les éditions sont illustrées par soit George Rodenbach,
oui,
soit Ensor, enfin voilà, que des Belges.
Ah, les Belges, on a de très bons peintres.
Félicien Rops,
oui,
voilà.
Rodenbach, c'était un romancier en
exactement,
effet.
Exactement, Bruges la Morte. À l'heure de ce qu'on appelle les feel good books, vous continuez, vous, à travailler la question, il est question de ça hein, dans Les Prénoms épicènes, la question de la cruauté. Et en même temps,
c'est très
génial, des rapports humains.
Ouais. Alors écoutez, je ne sais pas si je suis tout à fait normale, mais j'ai déjà essayé de lire des feel good books. Ça me déprime à un point qui n'est même pas exprimable. Ça me donne envie de mourir, mais tout de suite. Alors que, bien sûr, je ne suis pas du tout maso. Moi, quand je lis un livre, c'est au contraire pour éprouver de la joie, pour être pleine d'énergie, pour avoir envie d'affronter le monde après. Et il se trouve, moi, que les livres qui me mettent dans cet état de jouissance, qui me donnent envie d'affronter le monde entier, sont justement les livres terribles. Vous parliez tout à l'heure de Barbet d'Aurevilly, mais qu'est-ce qui donne plus envie d'affronter le monde que de lire justement La vengeance d'une femme, qui est un texte abominable.
Ou Le plus bel amour de Don Juan.
Ou Le plus bel amour de Don Juan. Mais j'ai une faiblesse pour La vengeance d'une femme, parce que c'est une vengeance tellement monstrueuse, tellement réussie et tellement sophistiquée que ça me met d'une excellente humeur.
Alors, épicène, ça vient du grec, puisque vous êtes helléniste, latiniste aussi, et d'ailleurs vous regrettez la possible disparition du grec et du latin, mais on va se battre, Amélie Nothomb, oui. On va se battre pour ça. Ça vient du grec epikoinos, ça veut dire en fait ce qui est possédé en commun, et le mot qualifie quelque chose qui désigne indifféremment l'un ou l'autre des genres mâle ou femelle. Donc il y a des prénoms épicènes, hein, vous connaissez l'histoire, vous l'avez expliqué 10 fois, Amélie, Claude et Dominique, hein, un homme ou une femme peuvent le porter, par exemple. Mais vous en faites, vous, un prénom de épicène, un prénom pour une petite fille. Je vais juste connaître le fil directeur qui a abouti à cela. Est-ce que c'était pour faire écho à cette époque qui s'étripe un peu sur les genres, faire œuvre réconciliatrice? En même temps, vous choisissez votre camp parce que cette épicène, c'est une femme. Et c'est la vengeance d'une femme, d'une jeune femme.
Vous savez, quand on a un grand débat de société et qu'on s'en sort pas, souvent la façon de régler le truc, c'est d'aborder la question de façon oblique, de biais, par une espèce de trappe sans importance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se crêpe le chignon pour des histoires de masculin, de féminin. Comment trancher quand on voit la souffrance qu'il y a de part et d'autre? Comment aller dire à quelqu'un « mais vous avez tort » Eh bien, peut-être qu'il faut examiner la question de biais. C'est vrai qu'en français, le genre neutre n'existe pas. Nous n'avons pas le neutre, mais nous avons inventé autre chose. Nous avons inventé l'épicène. L'épicène est largement représentée dans la langue française, d'abord dans les noms communs. Un oiseau, on ne dit pas s'il est masculin ou féminin. Une fauvette, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme.
Alors un écrivain, on a réglé le problème. Il y a écrivaine maintenant.
Ouais. Oui, moi j'en suis restée à un écrivain. Cela dit, si vous me dites que je suis une écrivaine, ça ne me pose aucun problème. Mais donc cette chose vraie pour les noms communs est vraie aussi pour les noms propres. Il existe de nombreux prénoms qui ne sont pas situables sexuellement. Et je constate une chose, c'est qu'il y en a de plus en plus. Bon, auparavant, il y avait Claude, Dominique, Camille. Je constate
Stéphane.
La langue américaine, qui, quoi qu'on en dise, est toujours la langue qui donne l'exemple, va vers de plus en plus de prénoms épicènes, Cameron, etc. On ne sait plus où on en est. C'est une position intéressante dans la langue. Ça veut dire qu'en fait, la langue aime jouer avec ça. Il y a un problème avec ça? Eh bien, et si on essayait un autre truc? Cet autre truc pourrait être l'ambiguïté. C'est rigolo, l'ambiguïté. Au fond, on ne sait pas si on a affaire à un homme et une femme. C'est très séduisant.
Ah oui, je veux dire. Bah d'ailleurs, c'est très Rodenbach et très Barbet d'Aurevilly. L'androgynie.
C'est vrai.
Grand motif décadent. Il y a un passage que j'aime beaucoup, Amélie Nothomb, parce qu'il est... Alors, il est très mystérieux, il y a une énigme, on va essayer peut-être de la lever ensemble. Alors, c'est pas le passage sur le sélacanthe qui est pas mal, vous savez, ce très très vieux poisson qui se met presque en état de mort clinique quand le biotope, quand l'environnement est par trop hostile, mais c'est autre chose. Je voudrais le lire. Alors, c'est un dialogue, vous permettez que je
vous en prie.
Le pire, c'est que je n'y ai aucun plaisir. Aurais-tu vraiment préféré que Reine quitte son mari pour Claude? Non, pauvre Reine, je l'aime trop pour ça. Épicène sourit de cette réponse. Sa mère n'était donc pas indécrottable. La gamine reprit. Dans un mois, dans un an, tu te réveilleras un matin en t'apercevant que tu ne souffres plus. Comment sais-tu de telles choses? Entre ses 11 et ses 14 ans, la gosse était morte pendant plusieurs siècles. Ces années de sélacanthe lui avaient donné accès aux archives des enfers. À présent qu'elle était revenue à la vie, elle pouvait convoquer à volonté cette mémoire. Elle se garda de le dire et se contenta de hausser les épaules. Les archives des enfers, j'adore ça. Je me suis demandé si là, vous ne livriez pas quelque chose qui serait de l'ordre de votre secret d'écrivain. Vous qui avez, vous l'avez déjà dit, donc je peux le redire ici, vous avez hiberné finalement pendant des années, de 12 à 17 ans, à cause d'un événement terrible qui s'est passé quand vous aviez 12 ans. Et à 17 ans, vous vous êtes réveillé de cette hibernation. Vous avez eu accès aux archives de l'enfer?
Oui, très largement. Je ne pense pas être un cas très particulier. J'ai la conviction que quand on vit un certain nombre d'années, forcément il y a un moment où on meurt sans attendre sa mort. Vivre, c'est mourir plusieurs fois. C'est assez stupéfiant de voir à quel point on peut ressusciter souvent, finalement. Nous savons tous ce que c'est, une rupture amoureuse, un choc, une agression. Ce sont des moments où nous mourons, pour de vrai, pas du tout métaphoriquement, nous mourons. Et notre mort dure un certain nombre d'années. Et puis, Souvent, ces morts ne sont pas éternelles. Pour des raisons X ou Y, on s'en remet, un jour, on ressuscite. Et puis, on continue à vivre, et puis on remeurt, et on se dit « Merde, j'étais déjà morte une première fois, et voilà, ça recommence !» Et c'est très difficile à ce moment-là de se dire « Mais tu te souviens, t'es déjà morte, en fait. Et c'est pas grave, et attends le nombre d'années réglementaires, et tu vas ressusciter encore. »
Mais il est question, dans ces archives des enfers, d'une sorte de réservoir, de mémoire, hein, oui, qu'on peut convoquer à désir, quoi, dès qu'on le souhaite. Pendant cette hibernation-là, ce réservoir, il s'est constitué de quoi ? De lectures, d'expériences, de cette histoire que vous racontiez avant, quand vous étiez petite et que vous avez cessé de vous raconter à un moment ?
Dans mon cas, c'est vrai que de 12 à 17 ans, ça a été surtout la lecture. J'ai mangé du livre pendant ces années-là. Et quand je dis que je les ai mangés, je lisais en me disant « la solution doit être là-dedans ». Et en fait, j'avais raison. Même quand, comment dire que la solution est là-dedans ? Là encore, mes lectures de l'époque, c'était Stendhal, c'était Monterland. Quelle solution voulez-vous trouver dans Stendhal et Monterland ? Et il n'est question que de gens qui ratent leur vie de pires manières. Et pourtant, la solution est là-dedans. C'est très curieux.
Mais cette époque-là, cette époque d'hibernation, elle constitue aujourd'hui justement un fond, j'allais dire, une archive dans laquelle vous puisez.
Ce sont mes archives des enfers. Ce ne sont pas les seules archives dans lesquelles je puise. Je me rends bien compte que toutes les années qui ont précédé, donc de 0 à 12 ans, ça, c'était mes années de grande vivante. C'était tout allait bien. Vraiment, tout allait bien. J'allais vers un grand destin. J'étais absolument persuadée qu'un grand destin m'attendait. D'ailleurs, je le vivais déjà. Et tout concordait.
Destin de quoi ? D'écrivain, déjà ?
Pas du tout. Je ne m'étais absolument pas vue comme écrivain, sans doute parce que j'appartiens à une famille où la littérature est extrêmement importante et vue comme une espèce de valeur suprême. C'était impossible pour moi de me projeter dans un personnage d'écrivain. À l'époque, je me projetais dans une profession tout à fait absente dans la famille. Je me voyais très grand médecin, même énorme médecin. Vous voyez, médecin qui allait guérir les gens en apparaissant. Et bon, finalement, ça n'a pas marché.
Et donc, vous puisez sur cette question-là,
Je puise dans la grande force de l'enfant, dans l'espèce d'archive des enfers de l'adolescence, mais aussi dans ce qui a suivi, qui n'est pas si inintéressant.
Il est beaucoup question des relations mère-fille, hein, encore dans les prénoms épicènes, père-fille aussi, de la relation parent-enfant. Revient beaucoup chez vous, toujours, la métaphore de la grossesse littéraire. On se dit que ça devient presque un cliché, pas seulement de vous,
oui,
d'ailleurs.
Je sais.
Mais est-ce que vous parlez de ça pour rédimer, finalement, une grossesse ou des grossesses trop humaines ? Je parle de vos livres, là. Qui ne serait peut-être qu'incomplète, parce que c'est vrai qu'on est rarement heureux quand on vient au monde dans vos livres.
Oui, bon, j'ai jamais été enceinte d'un vrai bébé, hein, donc je pourrais jamais faire vraiment la comparaison, mais je sens quand même qu'il s'agit de la même chose. Par le degré d'implication, par le peu de choix qui est le mien par rapport au processus, on peut vouloir être enceinte, mais on ne peut pas choisir de quoi on va être enceinte. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux innombrables gens qui viennent me dire « Moi, je trouve que vous devriez écrire un roman sur telle cause. » J'ai envie de leur dire « Ah, parce que vous croyez qu'on choisit, franchement. » Et ça dit aussi que même quand on n'est pas en train d'écrire, là, je ne suis pas en train d'écrire, vous me voyez, n'en doutez pas, là, je suis profondément enceinte. C'est-à-dire que les entrailles, là, sont en train de suinter le truc. Ça suppose aussi un certain nombre de verbes. Je suis enceinte pour la 95e fois, donc j'ai pu observer que toutes les grossesses ne se ressemblaient pas. C'est pas le même verbe qui entre en jeu. Dans certaines grossesses, comme par exemple acide sulfurique, le bon verbe, c'était s'écouler. Il y avait du sang qui s'écoulait de moi. Dans certaines autres grossesses, comme journal d'hirondelle, c'était racler. Je raclais quelque chose. C'est à chaque fois on trouve le bon verbe pour que la chose arrive. C'est rare que le bon verbe soit déferlé. Ce serait trop beau s'il suffisait de se mettre à travailler et que ça déferlait. Non, ça déferle pas. Enfin, je crois qu'il y a des écrivains pour qui ça déferle. Moi, le plus souvent, je dois vraiment tendre l'oreille très fort, entendre le son et le faire remonter de la terre. Tout à l'heure, Johann Svar disait « Ça m'énerve qu'on dise que l'écriture vienne du ciel ». Il a raison, ça vient pas du ciel, ça vient du bas. Il faut sentir le son qui vient du bas. Il faut descendre au fond de ses entrailles. Il y a quelque chose qui monte, mais pour ça, il faut avoir l'ouïe très fine pour entendre ce qui monte. Alors, les gens qui viennent me dire « Ah, mais moi, je trouve que vous devriez dire que l'intolérance, c'est très mal et écrire un roman là-dessus. » J'ai envie de leur dire « Mais vous croyez vraiment que quand on tend l'oreille sur ce qui vient du bas, on est capable de se préoccuper des grandes causes ?»
Mais en même temps, c'est une image très, 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 très organique, très volumique aussi, là. Ce choix justement de caractériser la mise en scène par les livres. Vous avez préfacé les manuscrits de Perrault. Est-ce que quand vous avez regardé, peut-être touché ces manuscrits, vous avez pu prendre conscience aussi que trouver peut-être une résonance, le fait que quand on regarde un manuscrit et vous écrivez à la main, c'est là qu'on prend conscience qu'un écrivain a un corps. Parce que c'est là l'écriture se rend physique.
Mais dans le cas de Perrault, ce qui m'a très fort frappé aussi bien dans les histoires que je connaissais très bien que dans son écriture, c'est l'extraordinaire civilisation du processus. Perrault nous raconte des histoires abominables. Il est quand même question de petites filles mangées par des loups, de jeunes filles séduites par leur père, et pire encore. Il nous raconte des histoires atroces, mais avec une légèreté absolue. Je ne connais pas d'autres exemples d'écrivains capables de parler de choses aussi atroces et aussi vraies, hein, parce qu'en même temps, nous savons tous que c'est vrai. Bien sûr que des petites filles sont mangées, bien sûr que des jeunes filles sont séduites, et bien sûr qu'il se passe des choses pires encore, et que c'est la vie. Ce que Perrault essaye de nous dire avec son écriture extraordinairement civilisée, c'est « Oui, de telles choses existent, mais vous savez, je vais essayer de vous dire, c'est pas si grave, on peut s'en sortir. Faites preuve d'un peu d'esprit. » Et vous pourrez sortir du ventre du loup, ou peut-être vous n'en sortirez pas, parce que Perrault est très honnête. Dans la version de Perrault du Petit Chaperon Rouge, le Petit Chaperon Rouge reste mangé. C'est dans la version des frères Grimm, qui, eux, n'appartiennent pas à la même civilisation. Dans la version des frères Grimm, le Petit Chaperon Rouge est retiré du ventre du loup. Les chasseurs viennent ouvrir le ventre du loup et retirer le Petit Chaperon Rouge. Bon, c'est très mignon, mais tout lecteur un tout petit peu sensé se doute bien que de tels procédés n'existent pas. Quand une petite fille a été mangée, normalement, elle reste mangée. Et Perrault a cette honnêteté de nous dire le pire, mais avec une espèce de grâce insondable. C'est « Oui, la petite fille reste mangée, mais vous savez quoi ?» La vie continue. C'est terrible. Mais c'est vrai, nous en avons tous fait l'expérience.
On vient de parler de Perrault. On aurait pu parler de Barbe Bleue, de Riquet à la Houppe. Parfois, vous reprenez même des titres de contes qui deviennent des titres de vos nouveaux livres. Il y a eu aussi des jeux avec Oscar Wilde, avec notamment le crime d'Arthur Saville. La Genèse aussi, que vous avez réécrite dans la métaphysique des
tubes. Très, très grand bouquin. Il y a encore beaucoup de choses à tirer de la Genèse, vous savez.
Ou les Catilinaires, qui étaient aussi chez Cicéron avant d'être chez Amélie Nothomb. Oui. Est-ce qu'un écrivain est un réécrivain ?
Mais bien évidemment. Et là aussi, ça c'est une chose qu'on n'explique plus aux jeunes. Je parlais tout à l'heure des collèges et des lycées. Il est très important qu'on explique aux jeunes que, évidemment, qu'un écrivain se nourrit des autres écrivains. Il y a un mur de différence entre commettre un plagiat et se nourrir des autres écrivains. C'est tout simplement un écrivain de bonne compagnie. Un bon écrivain est un écrivain qui a beaucoup mangé. De même qu'un bon cuisinier est un cuisinier qui est allé énormément dîner chez les autres restaurateurs. Donc non seulement il n'y a pas de mal à ça, mais c'est très important d'avoir lu les autres. Une des principales choses qu'on décèle quand on lit un nouvel écrivain, c'est à quel point il s'est déjà nourri, à quel point il a déjà lu d'autres écrivains. Et plus il a lu, plus il sera original. C'est ça le vrai paradoxe. Je reçois énormément de courriers de jeunes qui me disent « Moi, j'ai envie de devenir écrivain et pour cette raison, je ne lirai aucun écrivain parce que je veux garder ma spontanéité. » Mais vous vous rendez compte ? Mais je leur explique, mais c'est précisément parce qu'il faut rester spontané qu'il faut avoir tout lu. C'est quand on a tout lu qu'on peut devenir une personne spontanée.
Y compris les contemporains, parce que James Ellroy, par exemple, a énormément lu, mais il se refuse, dit-il, à lire les contemporains. Vous ?
D'abord, je suis sûre qu'il ment. Les écrivains mentent. Vous savez, c'est important de le dire.
Tout écrivain est un escroc, vous l'avez dit dans...
Mais évidemment, comment voulez-vous y arriver sans être un escroc ? Mais voyez Victor Hugo, qui quand même... un des plus grands écrivains qui ait jamais existé, Victor Hugo prétendait qu'il ne lisait pas. Nous avons 1000 preuves que c'est faux. Mais il l'a tellement dit qu'il a inventé cette phrase géniale, « Une vache ne boit pas de lait ». Cette phrase est géniale, mais elle est fausse. Et Victor Hugo était le premier à boire du lait. Toute son œuvre en témoigne. Et Victor Hugo lisait énormément.
Quand on se plonge dans vos romans, Amélie Nothomb, il y a évidemment très souvent une interrogation, un questionnement de ce qu'est la monstruosité, les limites de la folie, des personnages qui ont été rejetés, malheureux, qui sont pervers, meurtriers parfois, qui fondent aussi leur propre logique, leur propre explication du monde, leur propre système de valeurs, qui leur permettent de donner un sens à leur sort. Vous aimez le mot « to crave », par oui. exemple. Hein, il en est question dans les prénoms épicènes, qui veut dire « avoir un besoin éperdu de oui. » en anglais. Est-ce que vous diriez que l'écriture procède d'un besoin éperdu de révélation? J'ai failli dire « apocalypse »
oui, dans le mot en grec. Oui, « révélation », c'est « apocalypse », voilà. Absolument.
Oui.
Oui. Vous savez, il y a ce titre grandiose de René Girard, « Des choses cachées depuis la révélation du monde ». C'est abominablement prétentieux, mais quand on se met en situation d'écrire au sens fort, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. On se dit, écrire, c'est un moyen de se mettre en rapport avec des choses cachées depuis la révélation du monde. Ça ne veut pas dire qu'on va les trouver. Mais quand un écrivain vient me dire, « Oh, moi, je suis modeste, vous savez, je suis un tout petit écrivain, je sais très bien que ce que je vais écrire, ce sera une toute petite chose. » La première chose que je pense, c'est, « Mais quel menteur! Comment voulez-vous faire une chose aussi grave qu'écrire, quel que soit le résultat, même si votre résultat est misérable, et Dieu sait s'il est fréquent que le résultat soit misérable, mais comment voulez-vous commettre un tel acte sans avoir, de façon avouée ou non, la plus colossale des prétentions? Évidemment que toute personne qui veut écrire veut découvrir des choses cachées depuis la révélation du monde.
D'ailleurs, je crois que vous aimez beaucoup cette phrase de Virginia Woolf, « Il ne s'est rien passé tant qu'on ne l'a pas écrit ».
Cette phrase est géniale parce que c'est tout à fait ça. L'écriture est là pour nous expliquer, non seulement pour nous expliquer, mais pour faire en sorte qu'il se soit enfin passé quelque chose. Il y a ça aussi dans Joyce. C'est un beau jour que le jour où on a entendu une parole. Mais comment faire pour entendre une parole ? Écrire est un moyen de faire enfin entendre une parole.
Est-ce que c'est un moyen aussi d'écrire ? Vous parlez beaucoup de l'enfance. Alors, il y a soit votre propre enfance, parce qu'il y a aussi une veine autobiographique aussi chez vous, Amélie Nothomb. Est-ce que le fait de se mettre en état d'écriture permettrait de retrouver, et là je m'adresse à la philologue, un rapport au langage qu'on a peut-être finalement beaucoup, beaucoup plus fin, beaucoup plus intime, beaucoup plus affûté quand on est enfant, c'est-à-dire qu'on découvre oui, la force sûr. D'un mot, quoi.
Mais bien sûr, il ne s'agit de rien d'autre que ça. Il s'agit de retrouver le pouvoir linguistique qu'on avait à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire au moment où on s'appropriait le langage et où on se sentait tout puissant. La première fois qu'on dit « maman », on a l'air de bêtifier, mais la première fois qu'on dit « maman », on la convoque, on crée sa mère en la nommant. Et l'écrivain est celui qui veut retrouver ce pouvoir-là. En écrivant le mot, il donne enfin une existence à quelque chose qui n'existait pas. Alors, évidemment, tout ceci est de l'ordre de la démence. Mais je vous assure que quand on est dans la transe de l'écriture, tout ceci est terriblement convaincant.
On va parler un peu de transe, d'ailleurs, ou de votre aspect transe, Amélie Nothomb. D'abord, on écoute votre deuxième choix musical, Mancenillier. Qui est le nom d'un arbre toxique, hein, de Louis Moreau Gottschalk.
C'est magnifique. Pour moi, c'est le Liszt sud-américain. Et quand j'étais vivais à New York, quand j'avais 10 ans, j'écoutais cette musique tous les jours.
Et c'est Philippe Martin au piano. Thank you. Mansonillier de Louis Moreau-Gottschalk, c'est le deuxième choix musical d'Amélie Nothomb. On est en direct de Radio France, Faites le Livre, le salon du livre de Radio France, dont la marraine est Amélie Nothomb. Pourquoi ce choix musical ?
Quelle cohérence entre mes deux choix, il est à chaque fois question de mourir. Qu'est-ce que le mansonillier ? C'est un arbre empoisonné. Si on veut mourir, je sais pas, je suis jamais allée au Mexique, mais il paraît qu'il suffit de s'asseoir sous le mansonillier et de laisser l'arbre agir. Et cette musique raconte comment ça se passe. Mourir comme ça, mais est-ce que c'est pas magnifique ? Comment est-ce qu'on peut avoir peur de mourir quand on voit que, en fait, ça se passe comme ça ? On se laisse lentement intoxiquer. C'est une expérience merveilleuse. Je souhaite à tout le monde de mourir comme ça.
Alors, il y a un aspect trans hein, chez vous, Amélie Nothomb. On va terminer par ça. Vous parlez notamment d'une histoire que vous racontiez à vous-même quand vous étiez petite, une sorte d'épopée dont vous étiez tous les personnages. C'était quoi ? Cette histoire, elle s'est arrêtée hein, à un moment.
Oui, à l'âge de 12 ans, lors des faits. Oui, c'est vrai que de 0 à 12 ans, je ne cessais pas de me raconter une histoire, plus particulièrement la nuit, parce que j'étais déjà pathologiquement insomniaque. Et cette histoire, c'était l'histoire. L'histoire était parfaitement ininterrompue. Il y avait beaucoup de héros, et ces héros étaient généralement des enfants, un frère et une sœur, à qui il advenait toutes sortes d'histoires. C'est-à-dire qu'ils rencontraient le méchant prince qui était sadique et qui allait leur faire subir toutes sortes de tourments. Et puis, ils affrontaient la faim et ils trouvaient des subterfuges pour survivre. Et puis, ils allaient devoir partir pour une autre planète. Et là aussi, c'était une expérience très forte.
Et est-ce qu'il y avait l'idée, comme chez Scheherazade, vous étiez votre propre Scheherazade, finalement, de se maintenir en vie par cette
évidemment,
histoire à raconter ?
J'étais à la fois Scheherazade et le calife. C'est-à-dire que je me maintenais en vie, je ne me condamnais pas à mort puisque je savais que l'histoire allait se poursuivre et cette histoire me passionnait au dernier degré. Mes parents étaient toujours très étonnés de voir combien j'obéissais facilement à la consigne d'aller se coucher à 21h ou 22h. Ils ne savaient pas que quand je me couchais, je mettais les draps par-dessus ma tête et c'était mieux dans l'obscurité de se raconter l'histoire.
Et est-ce que c'est cette histoire donc, qui s'est interrompue entre 12 et 17 ans, à cause des faits, hein, comme vous le dites, est-ce que c'est cette histoire que vous reprenez aujourd'hui par le biais de tous ces romans qui dessineraient un géoglyphe, une sorte de dessin magique dont vous parlez souvent en forme de serpent.
Ça, c'est l'histoire, sauf que évidemment maintenant c'est moins bien parce que la voix s'est morcelée. Maintenant j'ai besoin de l'écrire pour que ça prenne sens. Quand j'étais petite, j'éprouvais pas le besoin de l'écrire. Je reproduis le schéma de l'humanité. Quand l'humanité était jeune, il suffisait de raconter l'histoire, on n'avait pas besoin de l'écrire. Quand on a inventé l'écriture, quand on a fixé pour la première fois par écrit l'Iliade et l'Odyssée, ça a été vu comme un scandale. Et soyez sûr qu'on avait raison, c'était un scandale de fixer ça par écrit. Mais voilà, il faut bien continuer à vivre. Donc quand on ne parvient plus à se raconter l'histoire, on l'écrit. Et Dieu merci, il se passe encore quelque chose.
C'était un scandale de fixer Homère.
Alors quand Pisistrate,
quand
le tyran Pisistrate a ordonné la première impression écrite de l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée, tous les Aèdes, et pas seulement les Aèdes, tout le public de l'Iliade et l'Odyssée ont hurlé au scandale. On dit on n'avait pas le droit de massacrer la culture comme ça. Écrire l'Iliade et l'Odyssée, mais c'est faire un attentat contre la culture. Mais soyez sûr qu'ils avaient raison. Soyez sûr qu'entendre l'Iliade et l'Odyssée dans la bouche des Aèdes, c'était mille fois plus fort que de lire l'Iliade et l'Odyssée. Par ailleurs, s'ils ne l'avaient pas fixé par écrit, aujourd'hui, nous n'aurions plus les moyens de lire l'Iliade et l'Odyssée. Donc c'est le compromis de la culture.
Donc pour vous, ça n'était pas un scandale, en tout cas.
Non, mais en même temps, j'ai conscience, je les comprends. C'est vrai que quelque chose s'est perdu. De même que si je vois l'histoire de ma vie, à l'âge de 12 ans, quelque chose s'est perdu.
Pour terminer, Amélie Nothomb, il nous reste exactement 3 minutes, c'est dommage, mais j'aimerais qu'on parle. Alors, l'explication, tout le monde la connaît, mais ce n'est pas la question que je vais vous poser. Un roman que vous n'avez jamais publié, pas parce que vous le jugiez pas bon, hein, il y en a 3,7 par an hein, de romans hein, quand même, que vous écrivez, il n'en reste qu'un de publié. Mais parce qu'un éditeur vous l'a refusé. Vous avez suffisamment pas parlé de ça. C'est un livre qui traitait de l'expérience d'une plante magique, j'en viens à la transe, qui permet d'entrer en contact avec un univers parallèle. Elle est extrêmement importante pour des tas d'écrivains. C'est l'ayahuasca, une plante, en fait une liane, une sorte de décoction de liane.
Oui.
Alors, vous avez dit, ok, je veux pas que les gens, parce qu'ils m'auraient lu, se mettent à tenter cette expérience. Certes, mais quand on regarde tous vos livres, champignons hallucinogènes par ici, engrais arrosiers par là, meurtre, champagne.
C'est vrai.
Pourquoi leur refuser ça, finalement, cette connaissance, d'autant plus que c'est une plante qui, pour Artaud, pour plein de gens...
Mais oui, mais alors là, ce que vous dites est tout à fait vrai, Christophe. Mais vous savez, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une lettre d'une vieille dame qui m'est lectrice depuis 20 ans. Et là, je commence à comprendre pourquoi mon éditeur m'a refusé le manuscrit sur l'ayahuasca. La vieille dame me disait... « Oh, mais c'est horrible! Vous vouliez publier un livre sur l'ayahuasca, mais vous faites partie d'une secte! Mais c'est très mal de faire partie d'une secte !» Là, je me suis rendu compte, non, le malentendu est trop profond. Comment on fait expliquer à cette dame que consommer de l'ayahuasca, ça ne veut pas du tout dire qu'on fait partie d'une secte? Le malentendu est trop grand, je ne pourrais jamais expliquer ça.
Donc vous n'allez pas prendre ce risque du malentendu?
Oh, bah écoutez, pour le coup, on va peut-être attendre que je sois morte.
Vous avez pourtant rencontré une déesse.
Ah oui, c'est
moi, pas... je voudrais lire ce texte-là, je rêve
mais,
de
mais,
ça.
Mais... Ouais. Christophe Onodibio, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, je mourrai avant vous lirez ce texte.
Ah oui, donc lui, il ne sera pas brûlé, il ne sera pas décrit...
Je l'avais quand même apporté à mon éditeur, donc le manuscrit sur l'ayahuasca, je crois qu'il sera lu.
À 59 ans, il y a le grand silence pour le personnage d'Hygiène de l'Assassin. Est-ce que vous imaginez, comme Philippe Ross l'avait fait, alors il avait beaucoup plus de 59 ans, cesser d'écrire?
Je ne peux pas imaginer ça, c'est ma pire terreur, ça fait maintenant tellement d'années de ma vie que je vis dans cette espèce de processus continuel de création, que si tout à coup ça devait se tarir, je ne parle pas ici de la publication, je parle du fait d'écrire en créant tout le temps ce son dont j'ai tant besoin, si ça devait se tarir, je crois que je ne pourrais pas survivre.
Merci beaucoup, Amélie Nothomb, la marraine de Radio France, faites le livre, c'est la 7e édition, ça continue jusqu'à demain. Donc pas de Tartori, mais plein d'autres choses grâce à vous. Merci beaucoup. Une dernière phrase de vous. C'est une grande chose que de savoir quand on va mourir, on peut s'organiser, faire de son dernier jour une œuvre d'art. Eh bien voilà, on a déjà la musique qu'on écoutera le jour de votre mort, mais on vous souhaite encore une vie très très longue, Amélie Nothomb. Merci à vous. Alors, le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard avec la complicité de Joyce Brunet-Jailly, à la réalisation Jean-Christophe Francis. L'équipe technique était composée d'Alexandre Abergel, Benjamin Chauvin, Alexandre Jam, Nicolas Mathias, coordination technique Rémi Fessard et réalisation, allez, je le redis une dernière fois, Jean-Christophe Francis. Vous savez que vous pouvez écouter, réécouter cette émission sur Facebook, sur Twitter, podcaster pendant un an sur franceculture.fr. 7h avec Amélie Nothomb. Au revoir Amélie Nothomb.
Merci Christophe.